Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau traité, donc toujours dans la dernière partie de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans le supplément, donc le traité sur le sacrement de l'ordre, qui couvre les questions 34 à 40. Afin de gagner un peu de temps, je vais d'abord vous donner quelques principes généraux, ensuite nous détaillerons les articles de saint Thomas d'Aquin. On parle du sacrement de l'ordre, mais en fait, on pourrait dire plutôt les ordres, hein, parce que l'ordre est un sacrement qui est constitué de différentes étapes. On ne vient pas prêtre en 5 minutes, il y a un certain nombre de marches à franchir avant d'atteindre l'autel. Donc en fait, ce sont les ordres. D'abord une introduction au sacrement de l'ordre lui-même, la formation sacerdotale elle-même, à savoir la tonsure, on expliquera après, puis les quatre ordres mineurs, portier, lecteur, acolyte, exorciste, et enfin les trois ordres sacrés, sous-diaconat, diaconat et sacerdoce. Bon. Au-dessus, il y a encore l'épiscopat. L'épiscopat n'est pas un sacrement spécial, il y a 7 sacrements et pas 8, donc ce n'est pas un sacrement spécial, mais c'est la perfection, en quelque sorte, du sacrement de l'ordre. Alors, encore une fois, pour gagner un petit peu de temps, je vais vous lire rapidement donc l'enseignement de Saint Pédis dans son catéchisme, le catéchisme que je suis en général, qui est excellent, donc qu'il a écrit en 1910. Donc, je vais vous lire rapidement ce que dit Saint Pédis sur le sujet, c'est assez court, et ça met un petit peu les choses au clair, et ensuite on détaillera avec saint Thomas d'Aquin. Donc saint Pédis nous dit que l'ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées, qui regarde le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. On verra tout ça après dans les détails. On appelle l'ordre parce qu'il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d'où résulte la hiérarchie sacrée. Le plus élevé d'entre eux est l'épiscopat, qui contient donc ce qu'on appelle la plénitude du sacerdoce. Ensuite, le presbytérat, ou le sacerdoce, puis le diaconat, et les autres qu'on appelle ordre mineur. Bon. Jésus-Christ a établi l'ordre sacerdotal dans la dernière scène, quand il conféra aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de consacrer la très sainte Eucharistie. Puis, le jour de sa résurrection, il leur conféra le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, les constituant ainsi les premiers prêtres de la nouvelle loi dans toute la plénitude de leur pouvoir. Le seul ministre de ce sacrement est l'évêque. La dignité du sacerdoce chrétien est très grande en raison de la double puissance que lui a conférée Jésus-Christ sur son corps réel et sur son corps mystique qui est l'Église, et en raison de la divine mission confiée aux prêtres de conduire tous les hommes à la vie éternelle. Le sacerdoce catholique est nécessaire dans l'Église parce que sans lui, les fidèles seraient privés du saint sacrifice de la messe et de la plus grande partie des sacrements. Il n'aurait personne pour les instruire dans la foi. Ils resteraient comme des brebis sans pasteur, à la merci des loups. En un mot, l'Église n'existerait plus comme Jésus-Christ l'a constituée. Le sacerdoce catholique, malgré la guerre que lui fait l'enfer, durera donc jusqu'à la fin des siècles, car Jésus-Christ a promis que les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. C'est un péché très grave de mépriser les prêtres, parce que le mépris et les injures qui s'adressent aux prêtres atteignent Jésus-Christ lui-même qui a dit à ses apôtres « Qui vous méprise, me méprise ». Le but de celui qui embrasse l'état ecclésiastique doit donc uniquement être la gloire de Dieu et le salut des âmes. pour entrer dans l'état ecclésiastique, ce qui est nécessaire avant tout, c'est la vocation divine. Donc, pour connaître si Dieu appelle à l'état ecclésiastique, tu as une vocation, donc il faut prier avec ferveur notre Seigneur de manifester quelle est sa volonté, prendre conseil de son évêque ou d'un sage et prudent directeur de conscience, examiner avec soin si on a les aptitudes nécessaires pour les études, les fonctions et les obligations de cet état. Celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans y être appelé de Dieu ferait un mal très grave et se mettrait en danger de perdition. Les parents qui, pour des motifs humains, engagent leur fils à embrasser sans vocation l'état ecclésiastique, commettent eux aussi une faute très grave, parce qu'en cela, ils usurpent le droit que Dieu s'est réservé à lui-même de choisir ses ministres, qu'ils mettent leur fils en péril de damnation éternelle. Donc les fidèles doivent d'abord laisser à leur fils et à ceux qui sont sous leur dépendance pleine liberté de suivre la vocation divine. Priez Dieu qu'il daigne accorder à son Église de bons pasteurs et des ministres zélés. Et c'est aussi dans ce but qu'a été institué le jeûne des quatre temps. Et enfin, troisièmement, avoir un respect singulier pour tous ceux qui, par les ordres, sont consacrés au service de Dieu. Oui, c'est assez court. Voilà donc le texte de Saint Pilice. Donc nous allons rentrer dans les détails avec ce sacrement de l'ordre et le texte de Saint Thomas d'Aquin lui-même. Je me permets de vous rappeler une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en tant que tel, en soi, le sacrement le plus important, c'est la Sainte Eucharistie. Pourquoi la Sainte Eucharistie est le sacrement le plus important? Parce que c'est le sacrement qui ne se contente pas de donner la grâce, mais donne l'auteur même de la grâce. Le sacrement, c'est quoi? C'est un signe visible d'une grâce invisible. Donc le sacrement est quelque chose voulu par Dieu qui donne des grâces. Mais avec la Sainte Eucharistie, on reçoit même plus que la grâce, puisqu'en soi, l'auteur même de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon. Donc, en soi, l'ordre est le sacrement, la Sainte Eucharistie est le sacrement le plus important. Donc, pour protéger la Sainte Eucharistie, le bon Dieu a en quelque sorte placé cette perle précieuse entre toutes, qui est le sacrement de la Sainte Eucharistie, dans une espèce de coffrage, de coffret de protection, un écrin, si vous voulez. En fait, il y a un double écrin. Le premier écrin, c'est la Sainte Messe. Le deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Donc, il y a un lien étroit qui existe entre ces trois choses, la Sainte Eucharistie, qui est la perle précieuse, et les deux protections, à savoir la Sainte Messe et le sacerdoce. Ce lien est tellement étroit qu'on ne peut pas toucher à l'un de ces trois éléments sans toucher aux deux autres. Ça veut dire, si je touche la Sainte Eucharistie, je vais toucher à la Messe et au sacerdoce. Si je touche au sacerdoce, je vais toucher à la Messe et à la Sainte Eucharistie. Et si je touche à la messe, ben je touche au sacerdoce et à la Sainte Eucharistie. Et le démon le sait. Le démon le sait. Qu'est-ce que veut le démon? Le démon veut la disparition de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour pouvoir obtenir la damnation des âmes. C'est le but du démon. Bon. Pour pouvoir obtenir la disparition de la Sainte Eucharistie sur la terre, il faut d'abord supprimer la messe, puisque la Sainte Eucharistie vient par le sacrifice de la messe. Mais pour pouvoir supprimer la Sainte Messe, il faut supprimer le sacerdoce. Donc, le démon va viser sur les trois choses en même temps, il va attaquer le sacerdoce, pour détruire la messe, et détruisant la messe, détruire la Sainte Eucharistie. Et on le voit très bien aujourd'hui dans l'église de Vatican II. Donc la destruction du sacerdoce, c'est 1968, ça avait déjà commencé avant, mais c'est en 1968 que l'église de Vatican II va modifier substantiellement le rituel d'ordination sacerdotale et, parce qu'ils sont pas bêtes, comme ils savent très bien que pour obtenir des prêtres, il faut des évêques, donc il a fallu attaquer aussi l'épiscopat. Donc en 68, ils ont aussi changé le rituel de consécration des évêques. Donc, si vous voulez, l'évêque donne le prêtre donne la Sainte Messe donne la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel. Bon. Le prêtre donne la messe, et par la messe, la Sainte Eucharistie. Donc, épiscopat, sacerdoce, Sainte Messe et présence réelle. Sainte Eucharistie, donc. Le démon a aussi attaqué la messe. Il a commencé d'abord par la destruction du sacerdoce en 68, ce qui fait que actuellement, en mettant même en plaçant la barre le plus bas possible, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un doute très sérieux sur la validité des ordinations faites après 1968, donc par des prêtres, pour des prêtres qui ont été ordonnés avec un nouveau rituel, ou des prêtres qui ont été ordonnés avec des évêques, par des évêques qui ont eux-mêmes été consacrés avec un nouveau rituel. Donc il y a un doute très très fort, et sur la validité de la nouvelle consécration épiscopale, et sur la validité de la nouvelle ordination sacerdotale. Vous rajoutez les deux doutes ensemble, ça fait un énorme doute. Pour cela que il faut impérativement qu'un prêtre qui a été ordonné prêtre avec le nouveau rite de 68, surtout si en plus il a été ordonné prêtre par un évêque qui lui-même a été consacré avec le nouveau rituel de 68, il est important qu'il soit réordonné sous condition de façon certaine. Donc on voit très bien, donc, l'Église de Vatican II a attaqué en 68 le sacerdoce par l'épiscopat et le sacerdoce. Deuxième étape, 69, l'année suivante, attaque de la messe elle-même, avec introduction de la nouvelle messe, qui est la disparition pratiquement de la messe catholique traditionnelle. Et le but de la manœuvre, c'est évidemment d'obtenir, après la disparition du sacerdoce, donc la disparition indirecte de la Sainte Messe, obtenir la disparition de la Sainte Eucharistie elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le drame. Vous allez dans une église moderne, qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle ? Un bout de pain, vraisemblablement. Vous allez communier dans l'église de Vatican II, qu'est-ce que vous recevez ? Un bout de pain. Et donc, il importe, pour nous catholiques, dans la tradition catholique de l'Église, donc nous sommes des catholiques, nous ne sommes pas des intégristes ni des cédévacantistes en tant que tels, nous sommes des catholiques. C'est parce que nous sommes catholiques que justement nous attachons à garder l'intégralité de l'enseignement catholique. Donc, pour nous catholiques, il est capital donc, pour pouvoir toujours nourrir notre âme avec la Sainte Eucharistie, de protéger le sacerdoce, et donc de protéger l'épiscopat, protéger le sacerdoce, protéger la Sainte Messe. Il faut se battre. Vous avez des zones entières du monde, ça, il faut comprendre ça, des zones entières du monde dans lesquelles il n'y a plus de messe, il n'y a plus de prêtres catholiques, il n'y a plus rien. Je reçois régulièrement des appels au secours de personnes que je connais ou que je ne connais pas, mais ça arrive. Je ne suis pas le seul à recevoir ces appels, il y a d'autres prêtres aussi qui les reçoivent aussi, donc qui reçoivent, qui me disent « Monsieur l'abbé, il n'y a plus rien ». Je repars au mois de septembre, si Dieu veut, à l'île de la Réunion pour 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien à l'île de la Réunion. Il y a la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui vient une fois tous les 2 mois, je crois, de Madagascar ou du Nigeria, et c'est tout. Mais la fraternité sacerdotale Saint-Pédis est maintenant partie entière de l'Église de Vatican II. Ils ont été reconnus par l'Église de Vatican II. Ils enseignent des abominations. Entre autres, ils prétendent que l'Église de Vatican II et l'Église catholique, c'est une seule et même Église, ce qui est complètement faux. De plus en plus, ils n'exigent plus réordonner sous condition des prêtres qui ont été ordonnés avec le nouveau rite et qui travaillent en union avec la fraternité. Pareil pour la confirmation. Toute une série de choses de ce genre qui sont absolument, absolument inadmissibles. Et la troisième erreur de la fraternité Saint-Pédis, c'est de prétendre que le pape n'est infaillible que dans son magistère ordinaire et que donc il peut se tromper en dehors de cette limite, ce qui est complètement faux, puisque le Concile Vatican I dit expressément que le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire. C'est pour ça qu'il faut avoir les pieds bien sur la terre, hein, remettre les barres sur les i et barres sur les et les points sur les i et les barres sur les t, pour que les gens comprennent ces choses-là. On touche à quelque chose de très important. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, bien que en soi, le sacrement de la Sainte Eucharistie soit le plus important des sacrements, dans la pratique, l'ordre, le sacrement de l'ordre est à mon avis le plus important. Parce que c'est le sacrement de l'ordre qui donne le reste. Donc, commençons maintenant directement avec le texte de Saint Thomas. Donc, le traité sur le sacrement de l'ordre qui couvre, encore une fois, les questions 34 à 40 de la partie de la somme théologique qu'on appelle le supplément. Donc, le sacrement de l'ordre, sa nature, ses éléments constitutifs, c'est la question 34, la première question de ce traité. Alors, saint Thomas se pose d'abord la question de savoir s'il doit y avoir un ordre dans l'Église. Voilà ce qu'il répond. Donc, il cite saint Paul aux Romains, « Ce qui vient de Dieu est ordonné, l'Église de Dieu, il a édifié par son sang, donc il doit y avoir un ordre dans l'Église. » Alors, ensuite, il explique, ça c'est très beau, que l'Église représente l'état intermédiaire entre l'état de nature et l'état de gloire. Donc, ce n'est pas encore le ciel, mais c'est ce qui amène au ciel. Dans la nature, il y a un ordre. Certaines créatures sont supérieures à d'autres. Dans la gloire, il en est de même, comme le prouve la hiérarchie angélique. Donc, il y a les neuf cœurs des anges. Ben, un archange, c'est au-dessus d'un trône ou d'une domination. D'accord ? Il y a un ordre. Donc, dans l'Église, il doit y avoir aussi un ordre. Il y a des gens dessus, des gens en dessous. Les gens qui sont en dessous, ils obéissent aux gens qui sont au-dessus dans la demeure, dans la mesure de leur autorité, dans le domaine de leur autorité. On voit très bien ici, par les explications de saint Thomas, encore une fois, que l'Église catholique n'a rien à voir avec l'égalité moderniste et l'égalité républicaine, maçonnique, libérale, révolutionnaire. Les révolutionnaires, la base de la révolution, c'est l'égalité, on est tous égaux. Mais non, on n'est pas tous égaux, chacun est différent, chaque âme est différente, et même dans l'Église, il y a d'abord une inégalité dans le sens qu'il y a une partie de l'Église qui commande et une partie de l'Église qui obéit. On appelle la partie qui commande l'Église enseignante, donc ça c'est les évêques en soi, et l'Église enseignée c'est tous les autres. Donc le prêtre en tant que tel, il est membre de l'Église enseignée. Bon, dans la pratique, l'évêque délègue le prêtre, donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait dans la pratique, pratiquement, le prêtre fait partie de l'Église enseignante, dans le sens que c'est lui qui enseigne sous l'autorité de l'évêque qui va enseigner aux fidèles. Donc, il y a l'Église enseignante, l'Église enseignée. Bon, il y a les fidèles, et il y a il y a l'Église enseignée et l'Église enseignante. Bon, une autre distinction qui est très importante, pour reprendre ce que dit saint Thomas, c'est la distinction qui existe entre les laïcs et les clercs. Les clercs, c'est ceux qui se préparent à devenir prêtres, par exemple. Les clercs, ceux qui ont su la cléricature. La cléricature, c'est la tonsure. On en parlera après. Tonsure, c'est une introduction aux sept ordres qui forment le sacrement de l'ordre. Donc, avant de devenir portier, lecteur, acolyte, exorciste, sous-diacre, diacre et prêtre, commence par prendre la tonsure. Bon. Et donc, quelqu'un qui a reçu la tonsure n'est plus un laïc, c'est un clerc. Ce qu'on appelle un clerc, C-L-E-R-C. Il appartient à la cléricature. Donc, il y a une différence entre les clercs et les laïcs. Par exemple, ça choque un peu les gens quand je dis, pourtant c'est ça, une religieuse, c'est une laïque. C'est pas une claire, elle n'a pas la cléricature, elle n'a pas la tonsure. D'accord ? Ensuite, même dans la cléricature, il n'y a pas d'égalité, il y a différents degrés. Il y a ceux qui sont simples tonsurés, après il y a ceux qui sont ce qu'on appelle les minorés, qui ont simplement les ordres mineurs, puis ceux qui ont les ordres sacrés. Et même dans les ordres sacrés, il y a encore une hiérarchie entre les sous-diacres, les diacres, les prêtres, les évêques, au-dessus. Donc, entre ses œuvres et lui, dit saint Thomas, Dieu a voulu pousser la ressemblance aussi loin que possible pour les faire parfaites et pouvoir par elles être connues. Donc, afin donc de manifester dans ses œuvres non seulement les perfections de son essence, mais celles de son action sur les créatures, il a imposé à tout être cette loi de nature, les êtres inférieurs seront conduits et poussés à leur perfection par les êtres intermédiaires. Ceux-ci, à leur tour, seront poussés par des êtres supérieurs. Donc, là, une phrase très importante et très belle. Dieu a voulu pousser la ressemblance pour, par ses œuvres, être connu. Donc, on connaît Dieu par les œuvres de Dieu. Et il suffit de se placer un mois d'août sous la voûte des étoiles du ciel un soir de beau temps, de voir la magnifique voûte céleste avec toutes ces étoiles qui partent dans tous les sens, qui traversent toute la voûte céleste, qui bougent lentement au cours de la nuit avec les planètes et tout ça. On voit bien qu'il y a un ordre. Pas possible que tout ça soit fait tout seul. Il faut bien qu'il y ait un ordre parce que les étoiles, elles suivent toujours la même orbite, de façon déterminée. On peut savoir exactement que dans 25 ans, à 5h50 ou à 3h51 de l'après-midi, il y aura une éclipse solaire, par exemple, ou une éclipse lunaire. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des règles. S'il y a des règles, c'est quelqu'un qui a mis ses règles, établi ses règles. C'est quelqu'un qui a établi ses règles, c'est Dieu. Donc, saint Thomas ici explique bien qu'on connaît notre Seigneur Jésus-Christ, on connaît Dieu par les œuvres de Dieu. Entre ses œuvres et lui, Dieu a voulu pousser la ressemblance aussi loin que possible pour les faire parfaites et pouvoir par elles être connues. C'est une très belle phrase de saint Thomas. Alors ensuite, une autre phrase très importante, c'est la diversité dans la grâce qui fait la hiérarchie angélique. Les ordres des anges, les neuf cœurs des anges, dépendent de leur participation au bien divin et de leur communion à la gloire. Gloire qui se mesure à la grâce, dont elle est comme la fin, d'une certaine manière, l'effet. Donc, il y a une hiérarchie chez les anges. Donc, les anges de la haute hiérarchie, par exemple les chérubins, les séraphins, sont plus proches de Dieu, ont plus de grâce spéciale de Dieu que des anges qui sont dans des groupes inférieurs par rapport à l'ordre des chérubins et des séraphins. Donc les ordres, au contraire, dans l'église militante c'est l'église d'ici-bas, miles en latin c'est le soldat, donc les ordres de l'église des soldats de Dieu, nous sommes des soldats de Dieu, c'est qu'il y a trois parties dans l'église, l'église au ciel qu'on appelle l'église triomphante, l'église d'ici-bas, l'église des gens qui se battent, c'est l'église militante, et l'église du purgatoire qui est l'église souffrante. Bon. Les ordres de l'église militante, ici-bas sur la terre, dépendent de la participation, de la communion au sacrement qui sont cause de la grâce et qui la précèdent. Rappelez-vous la définition des sacrements, concile de Trente, sacrement est un signe visible d'une grâce invisible. Quelque chose qui se voit, qui manifeste, il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui se passe. C'est l'effusion de la grâce. Alors, définition du sacrement de l'ordre. Je vous rappelle la définition du pape Saint Pie X d'abord. Sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. L'ordre, donc, dit saint Thomas, est un signe par lequel l'Église confère un pouvoir spirituel à celui qui est ordonné. Ça, c'est une définition du maître des sentences. Ce qu'on appelle le maître des sentences, c'est Pierre Lombard. Donc, le maître des sentences, c'est un livre de théologie extrêmement connu du temps de saint Thomas d'Aquin. Toute la théologie était enseignée avant saint Thomas avec le maître des sentences. Ensuite, c'est la seule théologie qui a pris le relais, qui est bien plus complète. Mais la définition là vient du maître des sentences, Pierre Lombard. L'ordre est un signe par lequel l'Église confère un pouvoir spirituel à celui qui est ordonné. Saint Pie X reprend la même définition. L'ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu. La définition du maître des sentences, dit saint Thomas, convient à l'ordre qui est un sacrement de l'Église. Alors, tout le monde s'accorde, dit saint Thomas, pour ranger l'ordre parmi les sept sacrements de l'Église. Donc, notons bien qu'il y a sept sacrements, pas huit. Donc, la perfection du sacrement de l'ordre, qui est l'épiscopat, perfection du sacrement de l'ordre, n'est pas un sacrement à part. Fait partie tout simplement du sacrement de l'ordre lui-même. C'est la plénitude du sacrement de l'ordre. Donc, tout le monde s'accorde pour ranger l'ordre parmi les sept sacrements de l'Église. Alors, quelle est la forme et la matière de ce sacrement? On va étudier un petit peu ça. Alors là, il faut savoir que saint Thomas, donc, dans ses textes, nous sommes au XIIIe siècle, puisqu'il est mort en 1274. Ça, c'est des textes de Genèse de saint Thomas d'Aquin, je vous ai dit, qui ont été mis ensemble par le frère original, le secrétaire de saint Thomas d'Aquin. Pendant très longtemps, l'Église n'a jamais défini exactement quelle était la matière du sacrement de l'ordre. C'est que pour qu'un sacrement soit valide, il faut matière, forme et intention. Matière, c'est la chose utilisée, la forme, c'est les paroles, et l'intention, c'est les ministres avec l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Bon. Pendant des siècles et des siècles, l'Église ne s'est pas déterminée, n'a pas déterminé de façon absolue quelle était la matière du sacrement de l'ordre. Cependant, maintenant, les choses ont changé, parce que le pape Pie XII a explicitement, de façon infaillible, c'est un texte, etc., du pape Pie XII, a défini maintenant ce qu'était la matière du sacrement de l'ordre, et il l'a dit expressément, donc maintenant ça ne se discute plus, la matière du sacrement de l'ordre, c'est l'imposition des mains par l'évêque. Bon. Et la forme, c'est la préface consécratoire du sacrement de l'ordre. Donc actuellement, il n'y a plus de liberté dans ce domaine. Donc, saint Thomas, s'il écrivait sa somme aujourd'hui, n'aurait pas dit la même chose. Ce qu'il a dit était vrai en son temps, enfin était acceptable en son temps, ça ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII a fermé la porte à une libre interprétation, une certaine libre interprétation de savoir quelle était la matière du sacrement de l'ordre. Maintenant, c'est terminé, nous sommes tous obligés en tant que catholiques de comprendre que le sacrement de l'ordre, c'est la matière du sacrement de l'ordre, c'est l'imposition des mains. la forme, encore une fois, sont les paroles de la préface consécratoire. Je vous les lis ici, on y reviendra. Voilà ce qu'on appelle la forme du sacrement de l'ordre. Nous vous en supplions, Père Tout-Puissant, donnez à vos serviteurs, les diacres qui sont devant moi, donc, la dignité du sacerdoce. Renouvelez en leur cœur l'esprit de sainteté, afin qu'ils soutiennent avec honneur cette dignité qu'ils reçoivent de vous et qu'ils censurent les mœurs du siècle par l'exemple de leur vertu. Donnez-leur de devenir de dignes coopérateurs de notre ministère, que toute justice brille en eux, afin qu'au jour où ils devront rendre compte de leur administration, ils obtiennent les récompenses de la béatitude éternelle. Donc, la partie clé, c'est la première phrase. Donnez à ces diacres la dignité du sacerdoce. C'est ça qui fait le prêtre. Alors, pour répondre donc à la question, la forme du sacrement est-elle convenablement exprimée? Voilà ce que dit saint Thomas. La forme de l'ordre, dans la forme de l'ordre, on exprime l'exercice de ce pouvoir par l'acte qui est commandé. La transmission du pouvoir s'exprime par ce mode impératif. C'est ce que je viens de vous lire. Et donc ensuite, l'évêque va préciser les choses. Que ces prêtres opèrent pour le salut de votre peuple et par leur sainte bénédiction la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang de votre divin fils. Et ensuite, tout à fait à la fin, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, donc à la fin de la cérémonie, il y a une deuxième imposition des mains qui là va donner le pouvoir de confesser, d'entendre les péchés. Et le prêtre, en même temps qu'il fait, l'évêque, en même temps qu'il impose les mains pour la deuxième fois au jeune prêtre, dit, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Et il y a une belle prière tout à fait à la fin où il dit que l'évêque dit que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous afin que vous soyez bénis dans l'ordre sacerdotal et que vous offriez pour les péchés et les offenses du peuple les hosties agréables au Dieu Tout-Puissant à qui revient honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Les choses sont claires. Alors, continuons, article 5 du supplément, donc question 34, article 5, y a-t-il une matière du sacrement de l'ordre? Alors là, c'est ce que je viens de vous dire, donc saint Thomas dit, les objets utilisés pendant l'ordination sacerdotale, c'est-à-dire le calice et la patène, qui sont tendus au prêtre, au jeune diacre qui n'est pas encore prêtre, donc, à l'époque, on pensait que la projection des objets, c'est des instruments, ce qu'on appelle la projection des instruments, c'est-à-dire le calice et la patène, sur la patène on a mis une hostie, donc consacrée, sont mis entre les doigts du prêtre, et en même temps, les doigts de l'évêque vont toucher les doigts du prêtre. Bon. On pensait à l'époque que les objets, la projection des instruments, constituaient la matière du sacrement. Bon. Actuellement, c'est faux, puisque Saint Pie XII est passé, je vous l'ai dit par là, et Pie XII a maintenant défini de façon infaillible, donc c'est irréversible, c'est pour toute l'éternité, qu'en fait, la matière du sacrement de l'ordre n'était pas la projection des instruments, mais l'imposition des mains par l'évêque. Et d'où l'imposition des mains? L'évêque d'abord impose les mains, à la première fois, au début de la cérémonie, pour en faire des prêtres, puis ensuite, une deuxième fois, je vous l'ai dit, à la fin de la cérémonie, pour donner le pouvoir de confesser. Donc l'évêque garde la main au-dessus des ordinants, de ceux qui viennent d'être ordonnés prêtres. Et ensuite, tous les prêtres qui assistent à la cérémonie, c'est très beau, pour bien montrer l'union qui existe entre les évêques, l'évêque et les prêtres. Donc, tous les prêtres présents, parfois, je suis allé à plusieurs ordinations, il y a une centaine de prêtres, on venait tous autour de l'évêque, avec la main, nous aussi, étendue sur les ordinants, non pas sur leur tête directement, mais à côté de l'évêque, on tendait notre main, on élevait la main, pour montrer l'union qui existait entre l'évêque et son clergé. Donc actuellement, Pie XII l'a défini de façon irréformable, l'imposition des mains et représente la matière de ce sacrement de l'ordre. Donc cette phrase de saint Thomas n'est plus acceptable actuellement, parce que justement, encore une fois, à son époque, ce n'était pas encore déclaré. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, que saint Thomas n'est pas pape, donc il n'est pas infaillible. En tant que tel, il peut y avoir certaines petites erreurs, qui ne sont même pas des erreurs d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, les choses n'étaient pas encore définies.
Alors, on passe à la question 35 de l'effet du sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre confère-t-il la grâce sanctifiante ? Donc, vous savez que les sacrements vont donner plusieurs grâces différentes. Les sacrements vont donner soit un début de grâce sanctifiante, par exemple le baptême, par exemple l'absolution donnée à quelqu'un qui est en état de péché mortel, donc il n'a plus la grâce sanctifiante en lui. Donc la grâce sanctifiante va être donnée soit en son début, qu'on appelle la grâce première, soit en, une augmentation d'une grâce sanctifiante déjà existante, ce qu'on appelle la grâce seconde. Bon. Donc, le sacrement donne aussi une grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle est différente pour chaque sacrement. La grâce d'un nouveau baptisé n'est pas la même grâce que la grâce du sacrement, par exemple, de pénitence ou du sacrement de mariage. Bon, quand vous vous mariez devant l'Église, vous avez besoin, dans votre devoir d'état de marié, vous allez avoir besoin de toute une série de grâces spéciales, pour élever ensemble les enfants que le bon Dieu va vous donner, pour supporter les difficultés inhérentes à la vie commune, dont moi, après, je n'ai pas besoin, puisque je ne suis pas marié. Bon, par contre, le prêtre va avoir besoin de grâces particulières dont les gens mariés n'ont pas besoin. Donc, il y a une grâce spécifique pour chaque sacrement qu'on appelle la grâce sacramentelle. Donc, le sacrement de l'ordre donne une grâce sanctifiante seconde. C'est-à-dire que la grâce du sacrement de l'ordre, le sacrement de l'ordre, il faut bien comprendre ça, le sacrement de l'ordre est un sacrement des vivants. Donc, un sacrement qu'on ne peut recevoir que quand on est un tas de grâces. Un prêtre fait... Un jeune diacre qui va être ordonné prêtre avant son ordination sacerdotale fait en général ce qu'on appelle une confession générale pour bien purifier son âme avant que de recevoir le sacrement de l'ordre. Donc, le sacrement de l'ordre confère la grâce sanctifiante, puisqu'il y a une augmentation d'une grâce sanctifiante qui existe déjà en partie dans l'âme. Pourquoi ? Parce que les sacrements de la loi nouvelle du Nouveau Testament réalisent ce qu'ils signifient. Les sacrements, donc, sont cause de la grâce, signe visible d'une grâce invisible. Donc, si Dieu confère un pouvoir à quelque créature, il lui donne en même temps ce qui est nécessaire pour exercer convenablement ce pouvoir. Bon, si le bon Dieu ne donnait pas une grâce sacramentelle spéciale pour le sacrement de l'ordre, il serait impossible pour un prêtre de se sauver en exerçant son ministère, puisqu'il lui manquerait des grâces dont il a besoin pour pouvoir le faire correctement, ce ministère. Donc, il ne faut pas oublier que les dons de la grâce sanctifiante sont communs à tous les membres de l'Église, mais les dons qui établissent certaines distinctions, nul ne peut les recevoir s'il n'a la charité, et la charité ne se conçoit pas sans la grâce sanctifiante. Donc les dons spécifiques correspondant à chaque sacrement, pour le sacrement de l'ordre en tout cas, ne peuvent être reçus que si la grâce sanctifiante est déjà dans l'âme, si la personne qui reçoit donc le sacrement de l'ordre est en état de grâce. Donc pour exercer, dit saint Thomas, convenablement le ministère de l'ordre, ce n'est pas seulement une vertu quelconque qui est requise, mais bien une vertu éminente. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont de ce fait mis à la tête des fidèles et ils doivent aussi être les premiers par le mérite de leur sainteté. Donc, le prêtre étant supposé soigner les autres, eh bien, il faut commencer par être saint de corps et d'esprit lui-même. Alors, le sacrement d'ordre donne-t-il un caractère ? Plus exactement, c'est l'article 2 de la question 35 du supplément. Tous les ordres impriment-ils un caractère ? Alors, il est discuté de savoir si les différentes étapes du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire portier, lecteur, acolyte, exorciste, sous-diaconat, diaconat et sacerdoce, si chacune de chaque étape donne un caractère. Bon. Ce qui est certain, c'est que le sacrement lui-même de l'ordre, donc la dernière partie, la dernière étape, donne le caractère. Comme ce caractère de baptême, à savoir... par le baptême, on devient enfant de Dieu, comme la confirmation par laquelle on devient soldat de Dieu, par le sacerdoce, on devient ministre de Dieu. Bon. Il est certain qu'il y a un caractère donné avec le sacrement de l'ordre lui-même, la dernière étape. Bon. C'est l'opinion commune aussi que ce caractère est donné avec le diaconat. Non. Le caractère, dit saint Thomas, est une marque distinctive qui doit se retrouver dans tous les ordres. Bon. La preuve en est d'ailleurs que les ordres subsistent toujours et ne peuvent être reçus plus d'une fois. Bon. C'est l'opinion la plus commune. Cependant, il faut bien préciser actuellement que, imaginez quelqu'un, par exemple, qui a reçu, disons, les ordres mineurs, ensuite quitte le séminaire pour 3-4 années, et revient au séminaire pour, finalement, il change d'idée, il a décidé de reprendre sa formation sacerdotale, il revient au séminaire. Il n'a pas besoin de recevoir de nouveau les ordres mineurs puisqu'il les a déjà reçus. Il y a une marque qui est indélébile. Hein? Cependant, ce qu'on appelle le sacrement, le caractère du sacrement, qui est encore beaucoup plus forte, si vous voulez, est vraiment donné avec le sacerdoce et aussi avec le la partie qu'on appelle le diaconat. Alors, il y a plusieurs opinions, si vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas de certitude là-dessus. Pie XII n'a pas répondu à toutes les questions. Il a simplement précisé la matière du sacrement de l'ordre, comme je vous l'ai expliqué. Par exemple, il y a une opinion théologique qui dit que les ordres sacrés impriment un caractère, mais simplement pour les ordres sacrés, sous diaconat et sacerdoce. Bon. Certains disent, notre opinion, que l'ordre sacerdotal seul imprimait un caractère. Bon. Et saint Thomas explique que c'est inexact, car les fonctions du diacre ne peuvent être légitimement exercées que par un diacre. Le diacre possède donc un certain pouvoir spirituel que les autres n'ont pas dans l'administration des sacrements. Donc on peut dire de façon certaine que le diaconat et le sacerdoce impriment dans l'âme de la personne qui reçoit le diaconat ou le sacerdoce, impriment un caractère. Cependant, l'opinion ici donnée par saint Thomas, et aussi on a le droit de la suivre, que le caractère en fait se retrouve dans tous les ordres, dans le sens qu'on ne peut pas recevoir deux fois même un ordre mineur, ce qui prouve qu'il y a déjà un caractère, parce qu'on ne peut recevoir plusieurs fois, on ne peut pas recevoir plusieurs fois un sacrement qui donne un caractère. Donc on peut être baptisé qu'une seule fois, on peut être confirmé qu'une seule fois, on peut être ordonné prêtre qu'une seule fois. Alors, le caractère de l'ordre présuppose-t-il le caractère baptismal? Est-ce qu'on peut ordonner prêtre quelqu'un qui n'est pas baptisé? Bon. Ben, saint Thomas répond tout simplement, le baptême, c'est la porte des sacrements. Donc, l'ordre étant un sacrement, présuppose donc le baptême. Il n'y a pas de porte, on ne va pas rentrer dans la maison. Donc, le caractère de l'ordre présuppose le caractère baptismal. Ben. Si un homme, dit saint Thomas, et il répond aux objections, si un homme est promu au sacerdoce alors qu'il n'est pas prêtre, il ne peut ni consacrer ni absoudre au tribunal de la pénitence. Pourquoi? Parce que n'ayant pas le sacerdoce, n'ayant pas, excusez-moi, le baptême, il ne peut pas recevoir le sacerdoce. Donc si quelqu'un a reçu le sacerdoce alors qu'il n'était pas baptisé, cette ordination est invalide. Selon le droit canon, il doit donc être baptisé d'abord, puis réordonné de nouveau. S'il est promu à l'épiscopat, ceux qui l'ordonnent ne reçoivent pas les ordres. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas les fondations, on ne peut pas monter de maison. Donc si la maison est montée sans fondation, ben, tout s'écroule. On peut légitimement croire, dit saint Thomas, pour ce qui est des effets derniers des sacrements, que le souverain prêtre supplierait à cette déficience et ne permettrait pas que ce mal soit caché au point de provoquer quelques dangers dans l'Église. Bon, dans la pratique, je pense que ça s'est jamais passé. Je pense pas qu'il y ait, dans l'histoire de l'Église, de cas de personnes qui n'étaient pas baptisées et qui ont été ordonnées prêtres. Dans ce cas-là, il faudrait réordonner sous condition. Alors, même question, article 4, la question 35 du supplément, le caractère de l'ordre présuppose-t-il en plus du caractère du baptême, le caractère de la confirmation? Bon. Les apôtres ont reçu le pouvoir de l'ordre avant l'ascension, quand il leur a été dit « recevez le Saint-Esprit ». Et ce n'est qu'après l'ascension qu'ils furent confirmés le jour de la Pentecôte, par la venue du Saint-Esprit. Donc, le caractère de la confirmation n'est pas nécessaire pour la validité du sacrement de l'ordre. Donc un prêtre qui est ordonné, qui est baptisé, mais non confirmé, est ordonné validement. D'accord? Mais cependant, on demande à tous les jeunes qui vont être ordonnés prêtres d'avoir été confirmés. Donc si quelqu'un arrivait au séminaire, par exemple quand j'étais au séminaire d'école, si quelqu'un arrivait au séminaire comme séminariste et n'avait pas été confirmé, c'est arrivé, il n'a jamais été confirmé avant d'arriver, eh bien il était d'abord confirmé avant de recevoir les ordres. Si donc le caractère de l'ordre suppose le caractère de la confirmation, c'est pour une raison de convenance et pas par une raison de nécessité. Donc l'ordre reçu sans la confirmation est valide. Le caractère d'un ordre présuppose-t-il nécessairement celui d'un autre ordre? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a le droit de recevoir par exemple le sous-diaconat sans avoir reçu d'abord les ordres mineurs? Bon, alors, inutile de vous dire que dans l'Église moderne c'est une belle pagaille, puisque l'Église moderne, l'Église de Vatican II, a supprimé purement et simplement le sous-diaconat et tous les mineurs, et attention, rien que ça. Donc ils ont supprimé la tonsure, l'ordre de portier, de lecteur, d'acolyte, d'exorciste et l'ordre de sous-diacre. Donc faisant fi de 2000 ans de tradition. Bon, ça en dit long sur l'église de Vatican II. Alors, celui qui reçoit un ordre sans avoir reçu le précédent n'a pas à être ordonné de nouveau, mais on lui confère simplement l'ordre qu'il n'avait pas, car l'ordre précédent n'est pas absolument nécessaire pour le suivant. Pourquoi ? Parce que la réception des ordres inférieurs n'est pas requise pour que soient valides les ordres supérieurs. Les pouvoirs sont distincts de soi, l'un n'exige pas l'autre dans un même sujet. C'est pourquoi dans l'église primitive, tout à fait au début, on ordonnait des prêtres qui n'avaient pas encore reçu les ordres mineurs. Parce que l'introduction des ordres mineurs s'est faite après. Dans la pratique, si quelqu'un avait été ordonné prêtre et qu'il n'avait pas reçu les ordres mineurs, ben, il faudrait qu'il les reçoive après. Mais en soi, il serait vraiment prêtre. Nous passons maintenant à la question 36, donc des qualités requises chez ceux qui doivent être ordonnés. Bon, ce sont des choses très importantes dans les séminaires. Donc dans les séminaires, petit aparté, il y a en général 6 ans d'études. Donc une année, Fraternité Saint-Mélis, c'était comme ça, une année d'introduction, qu'on appelait une année de spiritualité, qui était plus une espèce de propédeutique, si vous voulez, une année de propédeutique, une année de mise en condition, en quelque sorte, avant de commencer vraiment les études de philosophie et de théologie. Donc on commençait par une année de spiritualité, puis ensuite il y avait 2 ans de philosophie et 3 ans de théologie, donc en tout 6 ans. Bon, avant, c'est pas comme ça, moi j'ai fait que 5 ans, que quand j'étais au séminaire, c'était entre 74 et 79. À l'époque, il n'y avait que 5 ans d'études. Maintenant, il y en a 6. Donc, on reçoit les ordres au fur et à mesure. La première année, on reçoit la tonsure. Deuxième année, on reçoit portier-lecteur. Troisième année, on reçoit acolyte-exorciste. Quatrième année, on reçoit le sous-diaconat. Cinquième année, le diaconat. Et sixième année, le sacerdoce. Alors, article 1 de la question 36, un article important. La sainteté de vie est-elle requise chez ceux qui doivent recevoir les ordres? Bon. C'est un article évidemment important. Celui, dit saint Thomas, qui est pris en quelques vices ne doit pas être accepté par le ministère de l'ordre. Bon, je précise qu'on ne peut pas imposer la sainteté à un prêtre, parce que s'il fallait prendre que des saints comme prêtres, il n'y aurait pas grand monde dans le sacerdoce. En tout cas, il n'y aurait pas moins. Donc celui qui est pris en quelques vices ne doit pas être accepté pour le ministère de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a un séminaire. D'abord pour vérifier qu'il n'y a pas des vices anciens dans le passé qui rendent l'acceptation sacerdoce dangereuse, voire même invalide dans certains cas, ou extrêmement préjudiciable pour le bien de l'Église. Et ensuite il y a les 6 ans de séminaire justement pour apprendre justement à prier, apprendre à faire pénitence, apprendre à se sanctifier, à lutter contre ses vices et puis bien sûr contre ses défauts. Saint Thomas dit cela exactement. Il cite d'abord Saint Jérôme, non seulement les évêques, les prêtres et les diacres doivent avoir grandement soin par leurs paroles et leurs exemples d'entraîner tout le peuple dont ils sont chefs, mais aussi les clercs des ordres inférieurs et sans exception tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, car il est tout à fait nuisible à l'église de Dieu que les laïcs soient meilleurs que les clercs. Bon. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Enfin c'est comme ça. Il faut en principe que le laïc soit au-dessus du clerc dans sa sainteté de vie personnelle. Voilà. Dans le monde divin, nul ne doit prétendre au rôle de chef si sa vie n'est pas tout entière informée de divin, s'il n'est pas totalement à la ressemblance de Dieu. La sainteté de vie est donc requise pour satisfaire au précepte. Donc, avant d'ordonner un prêtre, on lui demande une sainteté de vie, au moins autant qu'on puisse juger, parce qu'on ne peut pas juger les intentions. Seul Dieu peut juger l'intérieur d'un cœur, pas un supérieur de séminaire. C'est pour ça que lorsqu'on voyait chez un séminariste certains défauts dans le moral, d'abord on lui faisait des remarques en privé, et s'il ne tenait pas compte de ces remarques, eh bien le séminariste, on lui demandait de quitter le séminaire. Pas forcément d'ailleurs pour des raisons morales, il y a parfois aussi des raisons intellectuelles. Par exemple, si un séminariste avait vraiment trop de difficultés avec certaines études, qui manquait de bon sens aussi, ce qui était fréquent, ça arrive souvent de plus en plus dans le monde moderne, manquer de bon sens, eh bien, manque de bon sens, c'est un gros obstacle pour le sacerdoce. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on avait dans les cours de séminaire, dans les instructions qu'on avait au séminaire, on avait des examens aussi oraux. On devait résoudre des cas de morale devant les professeurs du séminaire. Cela permettait aussi aux professeurs de voir si on avait suffisamment de bon sens. Et si constaté chez un séminariste une absence totale de bon sens, même si c'était un très grand saint, on lui demandait de quitter le séminaire. Alors, saint Thomas va ensuite détailler un peu les choses. La science de toute écriture est-elle requise chez l'ordinant? Alors voilà ce qu'il dit. L'homme, dit saint Thomas, en fait de science, doit avoir au moins ce qui lui est nécessaire pour régler l'exercice de cet ordre. Donc ceux qui sont placés à la tête des autres, du fait qu'ils ont charge d'âme, ont à connaître ce qui a trait à la doctrine de foi et aux mœurs. Les autres doivent au moins connaître ce qui concerne les fonctions de leur ordre. Bon. C'est valable par ce plan pour le sacrement de l'ordre, c'est valable aussi pour le mariage. Bon, avant de se marier, il faut savoir quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer dans le mariage. Quelqu'un qui se marie doit savoir ce que c'est que le mariage. Bon, imaginez par exemple, c'est des choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais avant c'était pas tellement, et même encore actuellement, on a rencontré parfois des cas où c'était pas évident. Si quelqu'un se marie sans avoir compris une jeune fille, par exemple, très innocente, qui a pas reçu beaucoup d'éducation de ce côté-là de sa maman, une jeune fille ignore complètement en se mariant que dans le mariage, il y a un contact physique entre l'homme et l'épouse, entre le mari et l'épouse, une relation sexuelle complète pour pouvoir justement avoir des enfants, qu'elle l'ignore complètement, et qu'elle refuse cet acte, parce qu'elle n'était pas au courant, eh bien, il était évident que, littéralement, un mariage comme ça serait invalide. Il serait invalide parce qu'elle ignore une chose qui est nécessaire à la validité du sacrement. Hein. Quelqu'un qui refuserait d'avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, personne mariée qui refuserait cet acte physique, eh bien, pécherait gravement parce que c'est le but premier du mariage, c'est l'éducation et la procréation des enfants. On ne peut pas avoir d'enfants sans cet acte physique. C'est la même chose pour le sacerdoce. D'accord ? Donc, il est important pour le prêtre d'avoir la science nécessaire. Donc, première science, c'est la science de l'écriture sainte. Hein ? Le prêtre a deux fonctions, dit saint Thomas, l'une principale qui aura pour objet le corps réel du Christ, l'autre secondaire, le corps mystique du Christ. Le corps réel du Christ, c'est la Sainte Eucharistie. Donc tous les différents ordres, depuis le plus petit portier jusqu'au plus grand, le sacerdoce, tournent autour de la Sainte Eucharistie. Plus on progresse dans les ordres, plus on augmente le pouvoir sous la Sainte Eucharistie. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est même au-dessus du sacerdoce, c'est l'évêque. Puisqu'il a le pouvoir non seulement de célébrer la Sainte Messe, mais aussi d'ordonner prêtre quelqu'un pour qu'il puisse dire la Sainte Messe. Bon. Le prêtre a donc deux fonctions. L'une principale a pour objet le corps réel du Christ, l'autre secondaire, le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Cette seconde fonction dépend de la première, et non réciproquement. Donc, c'est parce que le prêtre a une fonction qui a pour objet le corps réel du Christ, qu'il a une fonction qui a pour objet le corps mystique du Christ, l'Église. Certaines personnes sont appelées à remplir cette fonction dont le corps mystique du Christ est l'objet. Le peuple attend la loi de leur bouche aussi. Doivent-ils posséder la science de cette loi, non pas certes jusqu'en ses dernières subtilités, dans ce cas qu'ils recourent à leur supérieur, mais en tout ce qui concerne la croyance et la conduite que le peuple doit avoir. Quant aux prêtres, les plus élevés en dignité, les évêques, ils doivent connaître même les questions qui, dans la loi, font difficulté. Et ceci d'autant mieux qu'ils occupent un plus haut rang. Plus on est élevé dans la hiérarchie, plus on doit avoir une connaissance des choses de Dieu. Article 3 de la question 36, suffit-il d'avoir une vie pleine de mérite pour être de ce fait même ordonné? Est-ce qu'on peut ordonner quelqu'un qui est très saint, hein, qui fait des miracles à longueur de journée, qui a une très grande sainteté vie, mais qui a un cerveau de la taille d'un pois chiche? Bon, qui n'a aucun bon sens, il est peut-être très saint, il fait des miracles, mais il n'a pas de bon sens et il n'a aucune doctrine. Bien, la réponse est non. Bon. Donc, c'est ce que dit saint Thomas. L'ordre ne consiste pas dans le mérite même de la sainteté. Il faut, avec la sainteté, l'étude. Étude et sainteté de vie. Bon. Mais malheur au prêtre qui a pas les études. C'est sainte Thérèse d'Avila qui disait, si elle avait le choix entre un prêtre très saint, mais pas très docte, et un prêtre très docte, mais pas très saint, elle prenait le deuxième. Je choisissais le deuxième comme directeur spirituel. Parce qu'il faut la sainte, il faut la sainteté de vie, mais il faut aussi la connaissance de la doctrine. Les ministres de l'Église, qui ne peuvent donner la grâce, mais seulement les sacrements de la grâce, ne sont pas constitués dans la hiérarchie de l'ordre de par la pression de la grâce, mais de par la réception d'un sacrement de la grâce. Donc le prêtre, c'est saint sacerdos, le sacerdote, sacerdoce en latin, on parle du sacerdoce pour désigner celui qui est prêtre. En latin, ça vient de l'étymologie suivante, sacra dens, celui qui donne les choses saintes, celui qui donne les choses sacrées. Alors, est-ce que c'est un péché? Je pose la question à saint Thomas. Commet-il un péché, celui, l'évêque, donc, qui confère les ordres à des hommes qui en sont indignes? De même, il est plus grand d'appeler des sujets indignes au mystère sacré que de ne point les corriger s'ils sont déjà promus. La promotion des sujets. Alors, donc, ensuite, il donne un exemple. Élie pécha, qui était grand prêtre, pécha gravement en ne reprenant pas ses fils de leur péché. Et tombant son siège à la renverse, il mourut. Donc, il n'avait pas repris ses fils qui péchaient gravement en donnant du scandale à toute la communauté. Donc, la promotion, cependant, la promotion, dit saint Thomas, de sujets indignes n'est pas. Je reprends, donc saint Thomas dit, conclut ça là en disant, la promotion de ce sujet indigne n'est donc pas sans péché. Celui dont la vie s'est méritée le mépris n'est pas loin de l'attirer sur son enseignement. C'est pour ça qu'on ne peut pas ordonner prêtre quelqu'un qui n'a pas un minimum de sainteté de vie personnelle. Donc, celui-là est donc coupable d'infidélité qui donne à quelqu'un des biens divins plus qu'il ne lui revient. Ainsi fait celui qui appelle aux ordres des sujets indignes. Sa faute est donc grave, infidèle qu'il est à son souverain maître. Faute d'autant plus grave qu'elle est préjudiciable à l'Église et à l'honneur divin que les bons ministres s'efforcent d'assurer. Mieux vaudrait, c'est une très belle phrase de saint Thomas, mieux vaudrait un petit nombre de bons ministres qu'un plus grand nombre de ministres mauvais. Mieux vaudrait un petit nombre de prêtres, un petit nombre de bons prêtres qu'un grand nombre de ministres mauvais. J'irais même, on peut aller plus loin que ça, mieux vaudrait un petit nombre de bons prêtres qu'un plus grand nombre de ministres qui sont peut-être pas forcément mauvais, mais qui sont tièdes. Malheur à la tiédeur dans le sacerdoce. La sédie spirituelle est une catastrophe, surtout pour les prêtres. On voit très bien dans l'église de Vatican II, où il n'y a plus du tout de formation. Le prêtre moderne ne sait plus rien, il n'a plus aucune doctrine, c'est même pas son catéchisme. Il n'a jamais ouvert, évidemment, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et en plus de ça, ils n'ont pas de vie morale. C'est malheureusement aussi parfois le cas, même dans la tradition. Il ne faut pas croire que parce qu'on est prêtre dans la tradition, on est un saint. Il peut y avoir aussi des, par exemple, dans la tradition de l'église catholique, il peut y avoir, par exemple, des prêtres qui ont arrêté d'étudier. J'en ai connu parfois qui n'étudient plus assez. On a un devoir d'étudier. Et si on ne l'étudie pas, on finit par oublier les choses importantes. Moi, j'avoue que je m'oblige tous les jours, que le bon Dieu me donne, à étudier 3 heures. 3 heures tous les jours. Des études générales, soit philosophiques, soit théologiques, soit historiques, soit des lectures que je dois faire pour préparer mes conférences, préparer mes cours, mais je m'impose 3 heures d'études par jour, parce que justement, je sais que sinon, j'oublie des choses. Je n'ai pas une intelligence prodigieuse, loin de là. J'ai pas un QI de polytechnicien, loin de là aussi, et j'ai besoin de travailler, sinon on oublie des choses. Bon, il n'y a pas simplement besoin d'études, il faut aussi la sainteté de vie, et donc se confesser régulièrement pour se battre contre les tentations et rester en état de grâce. Malheur au prêtre qui est en état de péché mortel. L'apôtre écrivait à Timothée, donnait à Timothée, saint Timothée, le conseil suivant, n'imposez pas trop vite les mains à personne. Attention de ne pas ordonner trop vite quelqu'un qui ne veut pas être prêtre, pas être ordonné prêtre. Alors, quelqu'un en état de péché, peut-il sans péché exercer les fonctions d'un ordre qu'il a reçu? Bon, par exemple, un prêtre qui est en état de péché mortel, peut-il célébrer la messe? Bon. Alors, évidemment, si un prêtre en état de péché mortel célèbre la messe est quand même valide, c'est évident, puisqu'il a toujours le caractère sacerdotal. Cependant, un prêtre qui est en état de péché mortel n'a pas le droit de célébrer sa messe, sauf cas de nécessité absolue. Il est évident que si un prêtre a commis une faute grave, par exemple, le samedi soir, qu'il n'a pas pu se confesser tout de suite, malgré son désir, le dimanche matin, les fidèles arrivent pour la messe, il ne peut pas leur dire à l'entrée, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas de messe aujourd'hui, parce que j'ai commis un péché grave hier soir, je ne peux pas vous célébrer la messe. Bien sûr que non. Il doit essayer d'obtenir la grâce d'un acte de contrition parfaite pour regretter ses péchés, effacer ses péchés mortels autant que faire se peut, et célébrer la messe et se confesser au plus tôt. Donc, un prêtre qui serait en état de péché, exactement, en fait, signifie état de péché mortel, est donc un blasphémateur et un menteur qui accomplit indignement les fonctions de son ordre, aussi pêche-t-il gravement, et pêcherait pareillement quiconque exercerait indignement la fonction de son ordre. La loi prescrivant d'accomplir saintement ce qui est saint. Celui qui exerce un ministère sacré en état de péché mortel l'exerce donc indignement, et il est évident qu'il commet ainsi un péché grave. Alors, nous avançons avec la question 37 de la distinction des ordres, de leurs actes et du caractère qu'ils impriment. Donc, on a déjà vu ça en partie, on va revoir un petit peu tout ça. Donc, je vous ai dit déjà qu'il y a plusieurs ordres. D'abord, les ordres mineurs, puis ensuite, les trois ordres sacrés. Les ordres majeurs, ou ordres sacrés, sous-diaconat, diaconat et sacerdoce. Article 1 de la question 37 du supplément, doit-on distinguer plusieurs ordres? Donc saint Thomas répond à toute la tradition. Dans le Nouveau Testament, non seulement les prêtres doivent être consacrés par le sacrement de l'ordre, mais encore leurs ministres. Ainsi, la pluralité des ordres s'impose. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a différents ordres? D'abord, pour manifester, dit saint Thomas, pour manifester la sagesse de Dieu qui éclate surtout dans la multiplicité harmonieuse des choses, soit dans l'ordre naturel, soit dans l'ordre surnaturel. Une prairie qui contient des fleurs de différentes couleurs est plus jolie qu'une prairie qui ne contient qu'un seul type de fleurs avec toujours la même couleur. Bon. Deuxièmement, pour soulager la faiblesse humaine. Un seul ne peut satisfaire sans grande surcharge aux exigences des divins mystères. C'est pourquoi on distingue divers ordres pour diverses fonctions. Ainsi, le Seigneur donna à Moïse pour le seconder 70 vieillards. Enfin, troisième raison, la pluralité des ordres s'impose aussi pour ouvrir plus largement aux hommes la voie de la perfection. Hein? Un plus grand nombre étant ainsi préposé aux divers offices, tous coopérateurs de Dieu, c'est donc la vocation divine au plus haut point. Donc, il y a différents ordres. Bon, là, je préfère commencer cette question importante. Donc, au prochain cours, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.